Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, CFAQ.
Ça part ici.
CFAQ 88.3, on est mercredi le 27 novembre et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Comme d'habitude, j'ai mes deux amis, mes deux comparses, Nathan et Hugo. Salut les boys, comment ça va?
Bonjour Réal, ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va très bien, ravi d'être ici.
Hey, hier on a fini notre campagne de ISS Vanguard finalement.
Enfin, après bientôt à peu près 6 mois quand même que ça nous aura pris à y jouer.
Mm-hmm. Quand même, pas loin d'une vingtaine de parties. Puis, on va vous en parler plus longuement, éventuellement. Mais pas aujourd'hui, la fin est un petit peu trop fraîche.
Yep.
Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelques trucs, comme d'habitude, de jeux de société, de jeux de rôle. Hein? On va vous présenter le jeu de Wandering Tower. Hugo va avoir une chronique du garage, où est-ce qu'il va nous parler des stratégies pour gagner dans les Engine Builders. Et Nathan nous présente deux classes revisées dans l'édition 2024 de Donjons & Dragons. Mais, avant de commencer, bonne fête, Donjons & Dragons, qui a eu 50 ans la semaine passée.
Oui,
ouais, c'est...
ça a passé aux nouvelles, ils en ont fait quelques documentaires, faire un peu de promotion pour...
Dire qu'il y a 50 ans, c'était les clubs de satanistes qui jouaient à Donjons & Dragons selon les médias.
La panique satanique, c'est dans les années 90, ouais. Mon ami.
90, OK.
Oh oui, ouais, j'ai vécu ça, moi, là. Quand j'ai commencé, là, c'était comme... Mais là, tu worship les démons, mais non.
C'était mal vu dans les années 70 aussi, mais pour d'autres raisons.
Ben ça commençait, ça veut dire c'était pas mal vu, c'était juste inconnu. Là. C'était comme, c'est parce qu'on s'entend, Gary Gygax et cette gang-là, c'était pas du monde qui fitait dans le moule des années 70.
Non.
On sortait des années 60, des années où tout le monde avait une chemise blanche puis une cravate noire, où là, on commençait à avoir un petit peu plus de diversité, le flower power descendait. Puis, dans le fond, c'est en revenant avec des jeux style plus tactique qui avaient été faits Première Guerre mondiale, tour du siècle, là, où est-ce qu'on parlait plus de wargame, où là, ils ont comme décidé d'ajouter une dimension roleplay, et de là est né le jeu de rôle tel qu'on le connaît, et pas longtemps après, les conventions telles qu'on les connaît, et c'était l'invention du nerdisme moderne, hein, on va le dire.
Oui.
Un peu dans ça même.
Changer, rare qu'une personne qui a fait si peu d'argent et a si peu de renommée mondiale a changé la vie de autant de gens. J'ai quelques autres exemples, mais pas tant que ça. Alors, on commence avec une chronique garage, Hugo?
Ben allons-y. Ouais, donc ça, cette semaine, je vous présente les Engine Builders. Pour ceux qui nous écoutent assidûment, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Deck Builder. Si vous vous souvenez un peu des points, il y en a certains qui vont revenir parce qu'il y a quand même beaucoup de similarités. En ligne, plusieurs personnes considèrent les Deck Builder comme étant une sous-catégorie d'Engine Builder.
Alors, pour les non-initiés, un Engine Builder en 30 secondes, c'est quoi?
J'ai trouvé une vraiment belle définition. Ça allait comme suit. Tu commences avec des actions de base qui sont trop faibles pour te faire gagner. Et en dépensant des ressources et en dépensant des actions, tu vas progressivement améliorer la qualité des actions que tu as et avoir de plus en plus d'actions et de ressources disponibles. Pour gagner, il faut donc que tu sois en mesure d'optimiser et d'agrandir les combos qui te donnent le plus de points de victoire.
Écoute, A+, ta description.
C'est vraiment une belle description.
Ça, avec ça cette description-là, on voit pourquoi que les Deck Builders peuvent être une sous-catégorie d'Angel Builder.
Ouais, ben c'est ça, ouais, j'allais c'est ça. Dire. Ça s'applique aux Deck Bag puis Hand Builder.
Ça s'est résumé en trois catégories grands critères. Il y avait les Deck Builders, dans lesquels vous allez devoir optimiser un paquet de cartes dans lequel vous piochez à tous les tours. Un Bag Builder. Pour ceux qui ont écouté notre émission sur les charlatans de Belcassel, vous devez améliorer un sac dans lequel vous piochez à tous les tours. Et finalement, constructions de tableaux, dans lesquels vous allez avoir un tableau sous la forme de cartes ou de pièces ou de jetons devant vous, et que ces cartes-là vont avoir des effets, ces composantes-là vont avoir des effets.
Exemples de ça, c'est Earth et Everdell.
Oui, absolument.
Deux gros jeux très populaires présentement.
Il y a énormément d'engine builders, c'est assez populaire, et plusieurs jeux reprennent le concept d'engine builder, de près ou de loin. Voici les jeux qui sont les plus notables quand on parle d'engine builder. Tout d'abord, Splendor et Century, qui sont de purs engine builders. C'est vraiment pur engine builder. Vous commencez avec rien, vous devez construire un engin en acquérant de plus en plus de ressources et en faisant en sorte que les ressources soient de moins en moins chères à acquérir. Il y a eu plusieurs jeux qui s'en sont inspirés, qui l'ont développé de manière proéminente, tels que Res Arcana, Wingspan, Terraforming Mars, et on a mentionné Everdell, Earth et Ark Nova.
Terraforming Mars, mon préféré.
Mais comment est-ce qu'on fait à partir d'un jeu où le but, c'est d'avoir de plus en plus de choses, réussir à gagner? La stratégie la plus prioritaire, la règle d'or, on va dire, là, c'est de dire, en début de partie, commencez à prioriser les actions qui vous permettent d'aller chercher plus de ressources. Et plus tard dans la partie, allez prioriser les actions qui vous donnent des points de victoire. Parce que dans la grande majorité des cas, ce sera deux métriques séparées. Les actions qui vous permettent d'aller chercher plus de ressources ou plus d'actions ne vous donneront pas de points de victoire. Donc, vous allez devoir faire le choix entre est-ce que je vais être plus fort dans mes prochains tours ou est-ce que je vais aller chercher des points de victoire.
Il y en a où c'est particulièrement difficile de savoir le cut-off.
Oui.
Entre les deux moments.
Le cut-off peut parfois être étrange. Parfois, ça dépend des joueurs. Parfois, ça dépend du nombre de joueurs dans un même jeu.
Et aussi, il faut savoir quand est-ce que ça va faire boule de neige. Parce que tu peux souvent être pris dans les engine builders à « Ah, j'ai l'impression que j'ai encore un peu de temps. Ah, la partie est terminée. »
Ouais, ben c'est ça. Le fameux cut-off où « Ah non, moi, j'ai un tour de plus à monter mon moteur, là, je vais être bien avec ce moteur-là. » Ben, c'est ça. Oups!
Parce que c'est bien beau dire « Dans 3-4 tours, je vais faire 110 points, puis toutes les autres vont faire 10 points par tour. » Mais si dans 2 tours, la partie est finie, ça vous aide pas vraiment. Comment ça va fonctionner? La plupart de ce genre de jeu-là va avoir deux phases. Ils vont avoir plusieurs formes de rounds sous une manière ou une autre. Ces rounds-là vont s'alterner, ce qui va faire en sorte que vous allez obtenir des ressources, vous allez les dépenser au travers d'un round, vous allez acquérir des nouvelles cartes qui vous permettent d'aller chercher plus de ressources, d'aller chercher plus de cartes, d'aller chercher plus de composantes. Et une fois que tout le monde aura terminé son set d'action, n'aura plus de ressources, vont commencer un nouveau round. Où est-ce qu'ils vont regagner une nouvelle ressource puis recommencer?
C'est aussi là que la sauce va commencer à varier, parce que des fois, les ressources sont persistantes d'un round à l'autre. Mm-hmm. Des fois, elles sont pas persistantes, il faut les utiliser au complet. Ça va vraiment dépendre. Là. Puis ben, c'est là que... c'est une belle, belle, belle mécanique de jeu de rôle.
Absolument.
De jeu européen. Là.
Et c'est ce qui va un peu être le deuxième point. Quand est-ce que finit le début de partie que vous devez améliorer votre moteur? Quand on parle de moteur, on parle des cartes, des composantes qui permettent d'être plus fort. Et quand est-ce commencer à se focusser sur les points de victoire? Va être propre à chaque jeu. Donc, jouer à quelques reprises aux jeux qu'on classifie comme Engine Builder pour plusieurs raisons. Premièrement, pour savoir justement quand est-ce que cette ligne-là se fait, quand est-ce que vous devez transitionner. Mais aussi pour apprendre c'est quoi les combos. Parce que ce genre de jeu-là va avoir, en général, des combos, des manières d'aller chercher des points de manière typique. Il faut que tu connaisses les cartes qui s'agencent ensemble.
Ce qui te permet, dans ta phase de préparation, dans les parties subséquentes, de commencer à préparer ta phase de points en amont.
Exactement.
Parce que tu le sais, ce que tu peux peut-être aller chercher et d'être capable de faire tes combos. Là,
savoir quel combo se fait rapidement, savoir lequel donne le plus de points, mais écoute, prend un peu plus de temps, lequel est en mesure de faire le meilleur des deux mondes. Bref, quand on parle d'optimisation, c'est vraiment ça, là. C'est savoir qu'est-ce qui fait le plus.
On va aller faire une petite pause, puis on va revenir avec cette optimisation. Voyons, cette optimisation-là. On revient dans quelques secondes. De retour à Ludovac Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de partir à la pause, Hugo est en train de nous faire sa chronique du garage et nous expliquait les règles, bon, plus les stratégies pour gagner, dans ce qu'on appelle un jeu de type engine builder, construction de moteur.
Donc, on avait mentionné prioriser les ressources en début de partie, prioriser les points en fin de partie, devoir y jouer à quelques reprises pour savoir quand est-ce que finit le début de partie et commence la fin de partie, mais aussi apprendre c'est quoi les cartes qui synergisent ensemble. Petit conseil, dans la plupart des jeux qu'on parle de Wingspan, de Terraforming Mars, de Ark Nova, Everdale, il va souvent y avoir des logos, des petits emblèmes qui vont indiquer un type de carte qui synergise bien avec lui-même.
Ce qu'on appelle des tags.
Et ces tags-là vont être un bon indicateur. Si vous réalisez dans votre main de départ que vous en avez beaucoup, ou dans vos ressources de départ qui vous permettent d'aller chercher rapidement plusieurs tags d'un même type, ça peut valoir la peine d'aller dire « Je m'engage dans cette stratégie-là, c'est parti, et je tente d'aller faire ça. » Et ce, qu'on connaisse ou non les cartes qui vont s'y trouver, pour les nouveaux joueurs, c'est généralement une bonne stratégie de dire ça a l'air de s'enligner sur de quoi, ensemble, ça a l'air de relativement bien fonctionner ensemble. Quand j'en trouve, j'en prends. Est-ce que c'est ce qui va vous permettre de gagner la plupart du temps? Pas vraiment, mais sur une première partie que vous ne connaissez pas encore les combos, ça peut être une vraiment bonne stratégie.
Moi, je vous dis bien franchement, là, dans les Engine Builders, généralement, la stratégie gagnante que j'ai remarquée, c'est de minimiser tes achats puis de voir l'achat dans sa globalité. Fait que peut-être pas nécessairement gagner la course, mais de développer ton levier le plus rapidement possible. Je vais donner un super bon exemple, Splendor. Splendor, au début, les gemmes coûtent soit 3, 4 ou 5 gemmes pour les acheter. Puis ben, il faut accumuler des gemmes. Puis comme on les accumule à coût de 3, ben, c'est... Puis généralement, celle qui coûte 3, c'est 3 fois la même. Fait que ça prend quand même du coup aller chercher ces 3 gemmes-là. Parce que...
C'est très difficile d'aller chercher des gemmes en un coup. Là.
Puis entre autres, c'est pas évident parce que, ben, dépendamment de comment de combien on a une quantité limitée là, de gemmes. Puis si on a de la compétition, le tas de gemmes va être vide avant qu'on puisse aller chercher les gemmes qu'on a besoin. Fait que les 3 gemmes, c'est un gamble. C'est bien plus safe d'aller chercher quelque chose que 4 gemmes de couleurs différentes.
Oui, oui. C'est...
Effectivement. Ce qui amène aux deux derniers points que j'ai présentés. Tout d'abord, si jamais vous réalisez que votre stratégie, votre engin est moins rapide que d'autres personnes, c'est-à-dire que les autres vont finir par faire plus de points que vous par tour dans les tours suivants, changez de stratégie pour finir la game le plus rapidement possible. Plusieurs de ce type de jeu-là vont avoir une fin de partie variable. Au sens de dire, ce ne sera pas dire après 5 rounds, la partie est finie, et ce, peu importe le nombre de rounds, ça va dire dès que quelqu'un a atteint tel critère, la partie est finie à la fin du round. Quand vous voyez que les autres commencent à vous dépasser en termes de vitesse, ben, puis que vous ne voyez pas en manière de les rattraper, faites toutes les actions possibles pour terminer la partie. Ça va être ce qui va mettre frein à leur engin et potentiellement, si vous avez réussi à en ramasser un peu plus avant qu'ils commencent à être gros, réussir à les battre comme ça.
Pas toujours évident.
Pas toujours évident.
Je dirais que les engine building, c'est la place où changer de stratégie mid-game,
Si vous êtes chanceux, vous êtes plusieurs à vouloir terminer la fin de partie rapidement. C'est que vous étiez deux en compétition au début, mais là, vous rendez compte que le reste de la table vous rattrape. Donc là, vous êtes deux à essayer de terminer la fin de partie, fait que ça finit plus vite encore, mais il faut que vous soyez deux dans la même situation pour accélérer.
Super bon exemple de ce que tu parlais, Terraforming Mars, où il y a plein de façons, c'est une salade de points à la fin, il y a plein de façons d'aller chercher des points. Puis c'est important de vérifier les adversaires, ce qui score plus de points que moi présentement, sont-ils en train de... Tu sais, leur engine va-tu, puis on s'entend, moi, c'est mon jeu, là, Terraforming Mars, là. Je suis difficile à battre, ça arrive, mais souvent, je vais m'arranger pour, tu sais, que partir rapidement, avoir un bon levier, aller faire mes petits coups, là, aux bons endroits, puis gérer mes ressources, puis, ben le plus important, je pense, dans Terraforming Mars, c'est de pas essayer de tout faire.
Ah, donc tu peux pas tout faire. Non, je dirais que dans la plupart des engine builders, tu peux pas tout faire. Faut que tu te spécialises dans quelque chose. Il y a les purs engine builders, genre Splendor puis Sanctuary, où tu peux un peu plus te concentrer sur...
Ben, il y a une seule chose à faire.
Il y a une seule chose à faire, c'est monter son engine. Fait que c'est pas,
ouais, mais encore là, on parle de Splendor où on peut dire, ben là, moi y aller, m'acheter tous les diamants que je peux. Ça se fait. Mais là, c'était un autre joueur qui est en... même mode que toi, puis il est juste avant toi, puis il prend toutes les cartes diamants avant toi, t'es un peu fait, là.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est... Fait que si t'avais visé diamant, tu te rends compte au rang 6-7, oh shit, le diamant, ça marchera pas. Lui, il est tout en train de ramasser. Qu'est-ce que je fais? Une autre stratégie aussi, c'est, surtout quand il y a des ressources finies, comme Splendor, bon, tout le monde a besoin de diamants.
J'en prends
m'a ramassé les pocs de diamants puis m'a les gardé, je ne dépenserais pas. Comme on peut juste avoir deux jokers, ça rend les achats de cartes diamants. Tu sais, des fois, tu vas avoir dans ton shop, tu vas avoir trois cartes sur quatre qui demandent 5-6 diamants. Là. C'est comme tout le monde est... Ah! Là, tout le monde est bloqué là, à cause de ça. Là, il y en a un qui va se sacrifier, qui va aller chercher une réserver une carte pour l'enlever du shop, remettre une nouvelle carte. Là, c'est comme... Yeah. Le voisin va l'apprendre.
Mm-hmm. Ouais.
Faites pas ça.
Dernière stratégie que j'ai pour vous à vous suggérer aujourd'hui, c'est pas propice à tous les jeux de deck builder. Ça va être souvent propice aux jeux justement qui se finissent sous forme de round et que si jamais les personnes n'ont pas fini en même temps leur round parce qu'ils avaient plus ou moins d'actions à faire en fonction des ressources qu'ils ont dépensées, ils vont devoir attendre que les autres finissent. Qui est très propice quand on parle de Terraforming Mars ou de Wingspan ou Everdell, c'est de dire est-ce que vous êtes en mesure d'aller faire plus d'actions que les autres en un tour? Vous allez souvent débloquer des cartes, des composantes, des actions qui vont vous permettre de faire plus d'actions, qui vont vous permettre de faire plus de choses, qui vont vous permettre d'aller chercher plus de ressources, plus de points de victoire.
Le levier.
Le levier. Donc, si jamais vous voyez des cartes qui vous disent « Ah, ben quand je pioche une carte, joue une carte. Quand je joue une carte, pioche une carte. Ben, c'est facile de gagner dans ce temps-là. » donc, allez, si vous réussissez à faire deux fois plus d'actions que les autres dans un même round, vous allez généralement avoir beaucoup plus de chances de gagner.
C'est souvent risqué aussi de viser ces combos-là, mais hein, gros risque, grosse récompense la plupart du temps.
Exactement. Ouais. Donc, all in all, tentez d'optimiser pour ça, ben, jouez à des jeux d'engine builder, vous allez pouvoir voir c'est quoi qui en découle le plus souvent. Si vous aimez les jeux de deck builder ou de back builder, vous allez réussir à avoir plusieurs similarités avec la construction de construction de tableau. Et inversement, si vous aimez beaucoup la construction de tableau, vous allez très certainement aimer les deck builders et les back builders.
Hey, merci Hugo.
Ça fait plaisir.
C'est mon tour. Ouais. Je vais vous présenter un petit jeu bien fun, pas trop long, qui s'appelle The Wandering Towers avec un S. Alors, The Wandering Towers, un jeu qui joue jusqu'à 6, qui est essentiellement une course, mais où la ligne d'arrêt bouge.
la ligne d'arrivée bouge et c'est légal aux compétiteurs de faire des mauvais coups.
Ouais.
Exactement. Alors, The Wandering Towers, c'est une espèce de board circulaire où est-ce qu'il y a 16 positions. Et dans ces 16 positions-là, on va mettre une tour d'arrivée et 9 tours de départ. Fait que ça vous dit qu'il reste plus tant de place que ça sur le board, déjà en parlant. Mmh. Et après ça, on a des petits magiciens qui ont un nombre variable en fonction du nombre de joueurs qu'on va placer sur nos petits tours. Et tout ça, c'est mobile. Donc les magiciens bougent, les tours bougent, la ligne d'arrivée bouge. Et on peut jouer un petit peu à saut de mouton. Ou dans le fond, à chaque fois que c'est ton tour, choisis de... Tu as quatre cartes qui peuvent te donner des options de bouger ton magicien, bouger ta tour ou les deux, d'un nombre fixe ou variable.
Et c'est quoi le but du jeu?
Faire traverser la ligne d'arrivée par tous tes magiciens, mais pas dépasser la ligne d'arrivée.
Que tous tes magiciens arrivent sur la ligne d'arrivée.
Qui est une tour. Effectivement.
Est-ce qu'il y a un autre but aussi? Parce qu'il y a aussi une deuxième chose à faire pour réussir à gagner.
Il y a un autre but, effectivement. On ne peut pas juste se concentrer sur ça. Il faut charger des potions. Les potions ont un nombre variable en fonction du nombre de joueurs. Et comment on charge les potions?
En capturant les magiciens dans une tour.
Coup de chien! Donc, essentiellement, quand vous jouez, vous pouvez déplacer votre magicien, un de vos magiciens, pour l'amener vers la tour d'arrivée, ou vous pouvez bouger une tour. Et là, la tour, vous pouvez aller gober un magicien, essentiellement. Vous pouvez empiler plusieurs tours. Vous pouvez désempiler les tours, si ça vous tente. Fait que ça peut être un beau bordel. Et des fois, ce qui se passe dans ce jeu-là, qui est le kicker, c'est qu'on se souvient plus où ce qu'ils sont dans le chien.
Sous quelle tour? Donc, c'est-à-dire dans la grande tour au milieu de la table, c'est quelle étape qu'il faut que j'enlève?
À laquelle des étages mon chien est pris? Et là, ça peut, si vous n'avez pas une super bonne mémoire ou vous n'avez pas porté attention, ça peut vous coûter cher.
Je dirais que même en portant attention, par avoir une relativement bonne mémoire, tout bouge tellement tout le temps, c'est comme, j'étais où? Parce que là, si ta tour elle a été déplacée, mais que ton magicien est encore dans la tour qui est déplacée, il faut que tu te rappelles qu'il est là.
Puis en même temps, il faut que tu te rappelles d'où est-ce qu'est le magicien des autres pour pas les libérer par accident en libérant les tiens.
Exactement.
Ça fait beaucoup de choses à
faire. C'est un jeu qui se joue en 30 minutes.
Et oui, vraiment rapide.
2 à 6 joueurs. Nous autres, on a eu bien du fun avec ça la semaine passée, surprenamment. Puis c'est un gros 1.71.
Ah oui, non, c'est pas compliqué en termes de règles.
Le jeu est sorti en 2022. Il est dans le top 1000, 979e total. Vraiment pas un achat dispendieux. Je pense que c'est 55$. Il y a juste du carton dedans, par exemple. Les machines sont en bois, puis le dé est en bois. Ouais. Mais belle suggestion, si vous n'avez pas encore fait de cadeau Noël, puis vous le trouvez. Vraiment simple, super beau jeu pour initier aussi. Ça me fait beaucoup penser quand on était jeune au jeu Double Trouble, où il y avait l'espèce de bulle en plastique là, où est-ce qu'on faisait pas
oui,
le dé dedans.
Oui, oui. Mais puis pour la quantité de joueurs, on l'a essayé à 3, je dirais que je crois que 4 serait peut-être mieux parce que la troisième personne est mal pris un peu.
En effet. Sur ce, on va aller faire notre pause de midi et demi et on vous revient dans à peu près 3-4 minutes. Habituellement, quand la porte rouvre dans le studio pendant une annonce, c'est pas une bonne nouvelle.
Mais pas aujourd'hui, je pense.
Mais aujourd'hui, on vient de se faire surprendre par les gens de CFAC qui nous ont donné un prix longévité.
Oui,
oh my God!
Vraiment, énorme merci à CFAC de nous avoir accueillis depuis aussi longtemps.
Effectivement, on est à notre troisième saison. Donc, mais c'est super. À vrai dire, une saison écourtée un petit peu. Mais... hey, c'est génial. Merci aux gens de CFAC.
Oui, merci beaucoup.
Et puis, moi, j'avais déjà fait pas mal le tour sur Wandering Tower. Dans le fond, ce que je voulais, c'est vos impressions après avoir joué 2 parties. Comment vous avez aimé ça? Puis, y a-tu underrated, overrated?
Personnellement, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'apprécie de loin sa simplicité, au sens de dire, si je veux avoir du beau fun... Oui, qui nécessite un peu de stratégie, mais qui se joue vite, qui se joue bien, que t'as pas à planifier 20-25 moves d'avance parce que tu sais pas ce qui va se passer rendu là. C'est vraiment un beau jeu. J'aime aussi la mécanique de potions pour modifier comment la partie fonctionne.
Ouais, parce que je l'ai expliqué vite, mais il y a un petit peu plus de règles qu'on peut rentrer dans le jeu, dont... des espèces de move joker là, qu'on peut faire.
Ce qui fait en sorte que, bien, de temps en temps, on réussit à... ça quand même apporte une certaine variabilité au jeu qui, sinon, pourrait être assez déterministe. Fait que j'avais bien aimé cet aspect-là. Là.
Ouais, pour ma part aussi, là, j'avais bien apprécié l'expérience, le fait que ce soit simple. Donc, soit un jeu en entrée de soirée, un petit amuse-gueule pour se dire bon, à quoi qu'on va jouer, on sait pas, on joue à Wandering Towers en attendant.
La personne qui est en retard.
Puis ensuite, ben là, on va pouvoir commencer avec notre jeu qui est plus consistant. Ou encore un petit jeu de fin de soirée quand t'as fait une grosse fin de semaine de board game, puis là tu te dis j'en ferai un de plus, mais rien de trop compliqué. Je pense que Wandering Towers rentre dans cette catégorie-là de pas trop compliqué, puis qui se fait bien.
Moi, c'est un jeu que je vais adorer apporter et amener dans les événements où est-ce que je vais animer.
Ah oui, ça, oui, ça, oui, c'est clair. Là, c'est, ça s'apprend vite.
Un bel achat. Un bel achat. Disponible au club, donc, vous pouvez comprendre. On l'a, il va être sur le moratoire, en moratoire jusque probablement la mi-février.
Donc, si vous voulez avoir la chance d'y jouer, passez au club, il va toujours être là. C'est ça que ça signifie?
Les mercredis soirs. Soirée de jeu de rôle, jeu de société, excusez, hey, jeu de rôle, hein. Jeu de société ouvert à tous, gratuit.
Mm-hmm.
On est rendu une bonne gang en plus, là, ça commence à vraiment, vraiment être le fun. Là. Bon, c'est plus problématique quand on n'a pas nos locaux habituels. Nathan,
oui?
Est-ce que c'est le temps de nous parler des classes de Donjons et Dragons 2024?
Ben, je pense bien, oui.
Qu'est-ce que tu nous parles cette semaine?
Donc, je vais parler du moine, ou qu'on retrouve sous le nom du monk dans la version anglaise, et du paladin.
Okay.
Donc, beaucoup de changements pour le moine. Le moine en avait besoin. Le moine était une classe sous-puissante dans la cinquième édition. Là, il faisait pas grand-chose. Là.
C'est... Fait que là, je vais faire une joke de papa. Wizard of the Coast, c'est pas pogné le moine.
Exactement. Donc, là... plus grosse une modification en fait qui est arrivée, c'est les dés de dégâts. Le moine a une capacité spéciale qui s'appelle le Marshall Dice. Ils ont tous été augmentés d'un cran par rapport à la cinquième édition. Donc tu passes de 1D4 à 1D8, 1D6, 1D6 à 1D8 et ainsi de suite.
Fait que bon niveau, on faisait avant 1D4 maintenant.
On fait 1D6, puis au niveau, ben, tu fais 1D12 au lieu d'un D10.
Okay.
Donc tu sais, c'était nécessaire quand même et il me semble que c'était pas le cas. Ils ont été aussi changés au Monk Weapon. C'est plus juste les Unarmed Strike. Fait que maintenant, le Quarterstaff va également faire un D12 plus haut niveau.
C'était déjà aussi.
Si tu utilises dans le fond tes armes de Monk, qui normalement font pas beaucoup de dégâts, si ton dégât de Monk est meilleur, tu utilises tes dégâts Unarmed de Monk.
Exactement. Donc ça, c'est bien. Un autre changement que j'ai trouvé super intéressant, c'est un changement à Patient Defense puis Step of the Wind. Dans la cinquième édition, il fallait dépenser un point de ki, qui sont devenus des points de focus dans l'édition 2024, pour pouvoir les utiliser. Et bien maintenant, le disengage de Patient Defense puis le dash de Step of the Wind sont automatiquement bonus action. Ils ne coûtent pas de points de focus à utiliser.
Comme le Rogue.
Comme le Rogue. Sauf que tu as la possibilité de dépenser un point de ki pour rajouter le disengage à ton dash dans les deux situations.
Oh, intéressant.
Ooh.
Donc, quand tu dépenses un point de ki, c'est pour te pousser.
GTFO.
Yep, exactement. Donc, je trouve que c'est un ajout qui est quand même intéressant parce que ben, ça permet dans le monde d'avoir un petit peu plus de mobilité au niveau du combat. OK, oui, bon. La prochaine truc, ça s'appelle Uncanny Metabolism, qui en fait te permet de regagner tous tes points de focus une fois en chaque long rest. Ce qui fait en sorte que, parce que la grosse problème avec le moine dans la cinquième édition, c'était son problème de manager son ki, qui parce se dépensait rapidement.
Ça revenait pas au short rest.
Exactement.
Comme certaines classes, les trucs qui reviennent au short rest.
Mais là, lui, c'est juste n'importe quand, juste avant le combat, tu peux décider de l'utiliser. En fait, c'est avant les combats. Tu les regagnes tous. Pouf! Et voilà, maintenant, tu es retourné à pleine capacité. Et ce qui te permet en sorte de pouvoir utiliser tes capacités de monk plus souvent, parce que tu vas regagner tes points éventuellement.
Puis le focus, à part activer certaines habiletés, est-ce que ça a d'autres...
Non, c'est réellement que pour activer des habiletés de classe. C'est exactement comme l'équipe.
OK, fait qu'on peut pas passer des points de focus pour faire avoir des bonus au toucher ou au dégâts ou des trucs comme
non,
ça.
Non, c'est ça. Ah oui, ils ont changé Deflect Missile aussi pour Deflect Attack. Maintenant, ce n'est plus que les objets qui te sont lancés. Ce sont tous les attaques que tu peux décider de rediriger. Par contre, la mécanique est la même, c'est-à-dire que ben, tu vas enlever un D10 de dégâts à l'attaque que tu reçois, puis si tu l'amènes à zéro, tu peux rediriger l'attaque vers quelqu'un d'autre. Si c'est une attaque corps à corps, il faut que ce soit quelqu'un qui est à 5 pieds de toi.
Est-ce que ça peut être sur la personne qui vient de t'attaquer?
Ou c'est pas spécifié autrement, okay. Donc oui, selon ce qui est écrit, oui. Et par contre, les dégâts, au lieu de reprendre les dégâts de l'arme que tu déflectes, c'est deux fois ton Martial Dice plus ton Dexterity Modifier.
Ooh. Deux fois, donc tu lances...
Tu lances deux fois ton dé plus ton Dexterity Modifier. Mmh.
Donc, intéressant, surtout si on se fait attaquer par des monstres qui frappent pas trop fort. Je suis pas sûr que je redirigerais une morsure de dragon, là.
Non, 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 mais c'est ça. Autre changement sur Stunning Strike. Stunning Strike avant assommait la personne s'il échouait son Constitution Saving Throw.
Qui était le truc fort
du monk. Le truc fort du monk. Eh bien, ils l'ont rendu plus fort encore. Mmh. Parce que maintenant, si la personne réussit son Saving Throw, elle est quand même mi-mouvement.
Okay.
Et la prochaine attaque contre cette personne-là avant le début du prochain tour du moine est à avantage.
Okay. Ce qui fait un certain sens, parce que faut que tu touches, par exemple.
Oui, faut que tu touches. Là, c'est,
faut que tu touches, mais le jet de sauvegarde est réussi.
Ça, mais en fait, pour utiliser ce Stunning Strike, c'est une réaction au toucher.
Tu vas jamais perdre un Stunning Strike, parce que tu vas toujours l'utiliser après avoir touché. Mais en même temps, si la personne réussit son jet, à présent, c'est plus un saver
suck. Rien, c'est ça, exactement.
C'est ça. Ben, ça. C'est quand même consistant avec les changements dans le fighter, ou quand tu appliques l'effet d'un arme, l'autre n'a pas de sauvegarde.
Ouais, c'est ça.
Ça arrive, là. Fait que c'est un petit peu normal que ça soit pas juste tout ou rien. Là.
Ils ont changé aussi beaucoup de choses, comme je disais. Donc, il y a l'ajout de Acrobatic Movement, de facto dans la classe de moine, qui fait en sorte que si tu ne portes pas d'armure ou que tu n'as pas de bouclier, sur ton mouvement, tu peux te déplacer sur des surfaces verticales et sur l'eau. Sans tomber. Naturellement, tu ne dois pas finir ton mouvement sur une de ces cases-là parce que là, auquel cas, tu vas couler dans l'eau. Mais si tu veux traverser la rivière puis te rendre de l'autre côté puis que ton mouvement te le permet, tu peux le faire sans couler au fond de la rivière.
Ça me rappelle un vieux film qui s'appelait Nemo. Sans armes et dangereux. C'était littéralement un monk, le gars.
Nouvelle addition aussi pour tout ce qui est Fury of Blow, Patient Defense et Step of the Wind, qui sont les classes de monk qui utilisent du ki. Ils ont une amélioration au niveau 10. Oui, au niveau 10, donc c'est-à-dire qu'ils font plus d'effets. Fury of Blow va taper une fois de plus quand tu l'actives.
Ce qui fait sens, là, ça le ramène au niveau des barbares. Pis,
Oui. Quand tu fais le Patient Defense, tu reçois des Temporary Hit Points en fonction de ton Martial Dice. Et quand tu fais Step of the Wind, tu peux amener quelqu'un avec toi. Faut que tu aies dépensé un ki par contre. Okay. Mais donc ça veut dire, et la personne que tu apportes avec toi ne déclenche pas d'opportunité d'attaque non plus.
Step of the Wind.
C'était le dash.
Oui, le dash.
Mais
qui,
si tu spends un ki point, tu deviens un disengage. Puis pour pouvoir apporter quelqu'un, faut que tu aies spend un ki point.
Fait que est-ce que tu peux dépenser deux ki points pour faire le disengage et apporter une personne?
Ah non, c'est si tu dépenses un ki point sur Step of the Wind, tu peux apporter quelqu'un.
Donc
ça fait des engage et t'apporte quelqu'un avec toi.
Okay.
Qui ne déclenche pas les opportunités attaque et qui obtient tous les avantages de Step of the Wind.
Excellente façon de sortir le sorcerer du trouble.
Exactement, oui. Je me suis dit comme...
Papa, viens me chercher.
Rendu niveau 13, maintenant, on rajoute aussi la capacité de dévier les attaques d'énergie. Donc les sorts, les breath weapons des dragons et autres. Tu peux les déflecter aussi pour diminuer les dégâts que tu reçois.
Mais juste un D10?
Oui, c'est toujours juste un D10, mais c'est que ça diminue les dégâts.
Que à tous les tours, tu diminues d'un D10 les dégâts que tu reçois. Là.
Oui.
Ça vaut quand même pas mal la peine.
C'est une réaction.
Mm-hmm. Oui.
Ça te coûte ta réaction durant, par exemple, on s'entend. Là.
Perfect, on va finir rapidement pour le moine. Perfect Focus, fait en sorte que tu récupères jusqu'à 4 points de focus en début de combat, même si tu n'utilises pas ta capacité spéciale. Superior Defense? Coûte 3 points de focus et te donne résistance à tout sauf les force damage. Niveau 18, ça, par contre. C'est plus fort.
Même le psychique?
Même tout sauf force. Oh, c'est shit. Écrit tout sauf force, donc c'est quand même fort.
En effet.
Et niveau 20, pour bien être agréable, le moine gagne plus 4 en wisdom et en dex jusqu'à un maximum de 25.
Okay.
Fait que c'est plus 4.
C'est plus 8 de stats, statistiques niveau 20. Le Monk en avait besoin parce qu'il était vraiment pas fort passer le niveau 6. Donc, les changements sont bienvenus pour le Monk.
Ça fait, un beau keystone là, pour le moine.
C'est une classe.
Intéressant au niveau.
C'est une classe qui a moins besoin de support magique là, maintenant.
Exactement. Et pas de nouvelle subclasse, par contre. Malheureusement, ils ont repris que des anciennes subclasses.
On va aller à la pause de moins quart. On va aller payer nos comptes. Et au retour, tu vas nous parler de...
Du paladin.
Excellent. On revient dans quelques secondes. On est de retour en onde, votre émission Ludo Radio, votre émission de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek, en onde depuis 2 ans et demi maintenant et reconnue par CFAQ. Merci encore CFAQ pour ce beau petit prix. Vous avez fait ma journée.
Oui, absolument.
Oui, oui.
Donc, avant la pause, on a fait le tour des changements du Monk.
Juste un petit détail, tu sais, ce qui n'est pas un retour, parce que c'est la même chose dans la 5e édition. Le moine est encore dépendant de 3 statistiques, puisqu'il est en avant frontline. Ça y prend de la constitution, ça y prend de la dextérité pour toucher, et ses saving throws sont tous sur le wisdom. Donc, c'est un autre classe qui dépend de 3 caractéristiques pour être joué.
Donc, vous allez être un héros un petit peu moins concentré. On va maintenant parler du paladin.
Oui, beaucoup moins de changements pour le paladin, parce que le paladin était quand même très fort dans la 5e édition.
Moi, le paladin, je l'appelle le combattant qui est meilleur qu'un combattant.
Oui, parce qu'en fait, il gagne toutes les mêmes capacités que le fighter, c'est-à-dire des attaques d'extra, des fighting styles.
Il se guérit plus que le fighter.
Il se guérit plus. C'est comme... Changement au Lay of Hand, qui est le pouvoir de guérison du paladin qui n'est pas un sort. Avant, il était possible de guérir les maladies en plus du poison et de redonner des points de vie. Bien maintenant, c'est que possible de guérir du poison. Ils ont enlevé le fait de pouvoir guérir certaines maladies.
C'était fort un peu.
Oui, ouais. Oui, c'était...
Ça veut dire qu'à partir du niveau 2, t'étais plus affecté par quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc, ça restreignait un peu ce que le maître de jeu pouvait faire à ce niveau-là.
Oui, mais c'est un changement qui est bien vu quand même. Même si j'ai déjà vu des campagnes complètes où la maladie n'a pas été présente aussi de la campagne. Donc, tu sais, c'est comme...
Si vous avez un setting avec des paladins moindrement, puis des clérics le moindrement, puis on s'entend là être paladin dans 5e édition, c'est un petit peu plus simple qu'être paladin dans 2e édition où tu avais besoin d'un un set de score spécifique, au moins 15 en charisme. 15, c'était huge, là. 15, ouais. On faisait nos stats en pitchant 3D, là.
Ouais, ben c'est encore une méthode qui est utilisée. C'est juste que c'est plus apprécié parce que ça fait trop d'inégalités dans le groupe.
C'est ça.
Donc, petit changement sur Divine Smite. Divine Smite est avant un class feature du paladin. Donc, il pouvait rajouter des dégâts à son attaque. Et bien maintenant, ce n'est plus un class feature, c'est devenu un sort. Qui est en réaction. Donc, c'est-à-dire que tu es certain de toucher avec ton Divine Smite.
Parce que tu le castes, dans le fond, t'as touché, t'as déjà
tu vas déjà envoyer tes jets de dégâts de ton arme de base. Eh bien, là, tu vas pouvoir rajouter des D8 supplémentaires.
Ça, c'est en plus des autres sorts de paladin qui ne préparent pas ses sorts. Il les prépare-tu? Non, il les prépare
pas. Non, il les prépare pas. C'est une liste de sorts qu'il connaît. C'est je sors jusqu'à niveau 5, hein, parce que c'est une classe...
Un demi-caster.
C'est un demi-caster. Mais ce qui fait en sorte aussi que Divine Smite, pour une classe qui réussirait à aller chercher un sort d'évocation, peut techniquement aller chercher Divine Smite sans être paladin.
Donc, ouais.
C'est plus compliqué. J'ai pas trouvé les feats dans cette version-là qui donnaient accès à des sorts d'évocation. Mais ça peut arriver probablement éventuellement dans des futures extensions.
Effectivement. Personnellement, on trouve ça super drôle. Un wizard qui t'essaie de te smiter, là, mais bon.
Et
pas la meilleure utilisation de tes ressources. Hein.
Non, mais techniquement, le cleric peut le faire aussi. Hein.
C'est un sort niveau 1, le Divine Smite?
Ouais,
est-ce qu'il y a d'autres smites de niveau 2
Tu peux, non, c'est que tu peux upcast le smite avec un...
Okay.
Et aussi, ce que la nouvelle classe la nouvelle feature de Paladin permet de faire, c'est de caster une fois Divine Smite sans utiliser de spell slot.
Okay.
Tu peux pas le caster niveau 5 sans utiliser de spell slot, tant tu le castes niveau 1 sans utiliser de spell slot. Ça serait un peu fort sinon. Un autre ajout qui est fait, parce que les paladins ont pratiquement tout le temps ça dans leur sort, c'est le Faintful Steed.
Un sort intéressant.
Trouver un cheval.
Ouais, qui est toujours préparé, donc qui est toujours prêt à être utilisé, qui ne compte pas dans ta quantité de sorts, et que tu peux utiliser une fois par long rest gratuitement.
Ouh. De toute façon, les sorts rituels, quand tu les lances, ça ne consomme pas le... Fait que je me...
Il se casse n'était pas rituel en ce qui
est médecin. Il n'est pas rituel encore. Tu peux le transformer en rituel avec le feed qui transforme les sorts en rituel, mais il faut que tu ailles chercher le feed pour ça. un autre ajout qui a été fait, c'est Abjure Foe, qui te permet d'utiliser de un de tes Channel Divinity pour effrayer une quantité de créatures égale à ton modificateur de charisme autour de toi pendant une minute.
Ça, c'est en plus, dans le fond, de tous les autres sortes de crowd control que le paladin a, comme Compel Duel, qui force un ennemi à venir t'attaquer toi, puis...
Oui, c'est ça. C'est même pas un sort, c'est juste une fois, tant que t'as des Channel Divinity, tu peux le faire, c'est pas un sort. C'est un Channel Divinity.
Puis tes channels reviennent au short rest ou au long
rest? Ça, j'ai pas pensé à regarder, fait que je vais prendre 3 secondes pour regarder. En attendant, je vais parler de la prochaine étape, qui est le Radiant Strike. Ben maintenant, si tu réussis un attaque de mêlée ou un unarmed strike contre quelqu'un, tu rajoutes un D8 de dégâts radiant.
À partir
de niveau 11.
OK.
Oui, c'est quand même au niveau, mais un D8 de plus de radiant damage niveau 11.
Puis au niveau 11, le paladin, il y a 2 attaques ou il y a 3 attaques?
Je sais qu'il y en a au moins 2.
Il y en a une de moins que
ouais.
le fighter.
Ouais, ça, il y a juste un extra attaque, oui. Oui, ben, le fighter, c'était le spécialiste du bunk. Faut qu'il bunk plus que les autres.
Ouais. Quand même. On dit qu'il venait, mais il faut quand même qu'il fasse de quoi mieux que les autres. Là.
Oui. Aussi, ils ont enlevé le fait que tu avais Divine Sense de facto, puis Divine Sense est devenu un Channel Divinity.
OK.
Donc, c'est plus un truc gratuit que tu peux avoir.
Mettre ça à on tout le temps, puis plus l'éteindre.
Non, c'est ça. Même avant, tu pouvais pas le mettre en tout le temps. Là. C'est un certain nombre de temps, puis un nombre de fois dans une nombre de fois égal à ton niveau de paladin dans une journée. Là.
Ça, c'est dans 5e. Dans 3e, 3.5, c'était at will.
Attends, bon. Tu reçois un use quand tu finis un short rest et toutes tes utilisations reviennent après un long rest.
OK.
En fait, c'est tous les trucs qui revenaient avant au short rest totalement. Bien là, sont devenus, t'en regagnes un au short rest puis tu les regagnes tous au long rest.
Ça, je pense que c'est pas mal pour tout le monde.
Oui, ben ça, le wild shape du druide, c'est la même chose.
Les sorts du Warlock, mais on va parler du Warlock dans une
émission future. J'ai pas été lire encore, mais j'ai l'impression que les sorts du Warlock vont être le même. Quoique peut-être pas, parce que le Warlock n'a pas beaucoup de sorts habituellement.
Donc, ouais. Donc, tu dirais pour le Monk puis le Paladin, c'est-tu des upgrades, c'est-tu des rebalancements, ça vaut-tu la peine de passer à 2024 si c'est ça que vous voulez jouer? Ou...
Pour le moine, totalement. Genre, tous les ajouts qui ont été faits au niveau du moine sont une amélioration par rapport au moine de la 5e édition. Le moine de la 5e édition était ri avec le Ranger comme la pire classe à jouer. Et t'es des fois même pire que le Ranger parce que t'as tellement pas de key points puis que t'y regagnes tellement pas que ben tu fais 3 combats dans ta journée puis ben tu sors plus à rien. Tu fais des 6 de dégâts.
Donc, si jamais votre campagne n'est pas tant intéressée à transitionner vers 24, au minimum, suggérer de pouvoir utiliser cette version-là du Monk dans votre campagne de 5e édition, ça te fait assez bien. Là.
Oui, ça oui. Puis en plus, comme tu sais, tu peux enlever certaines modifications qui sont liées directement à cette édition-là, mais il n'y a pas rien de majeur que tu vas enlever. Là. Fait que je dirais que si vous voulez jouer un moine, le moine de 2024 est mieux que le moine de la 5e édition.
Et le paladin, c'est quoi? Un upgrade, un downgrade?
Je dirais que c'est un rebalancement. C'est qu'ils ont... Pour le Divine Smite, c'est un upgrade. Ça, c'est
ils ont pris la classe combattante qui était, à mon avis, la plus forte. Mm-hmm. De loin, là.
Oui.
Puis ils l'ont juste ajusté.
Oui, ils l'ont ajusté pour la ramener plus proche du barbare. Puis du... Puisque le barbare a eu beaucoup d'améliorations aussi qui l'ont rendu un petit peu plus fort. Donc, je dirais que certaines améliorations qui diminuent un petit peu la force du paladin le rendent au niveau là, du barbare.
Puis, dans le fond, je pense que l'utilisation des sorts est moins frustrante. Là, tu fais ton Divine Smite, tu manques ton attaque sur un double 1 sur tes D20.
Ouais, non, c'est ça.
Là, tu pitch tes dés, puis tu fais une crise.
Pour avoir fait, c'est comme plusieurs classes quand même, je vois beaucoup de synergie entre certaines classes. Mm-hmm. Par le fait aussi de pouvoir mettre des avantages avec le moine ou... Ce qui fait en sorte que, tu sais, ton paladin a des chances de faire un critique sur son Divine Smite, donc pour... Ah oui, non, ça change aussi. Vu que ton critique est sur ton dégât d'armes, techniquement, Divine Smite ne peut plus crit.
Oh. C'est...
Est-ce que c'est un sort en réaction?
Exactement. Donc, mm-hmm. techniquement, Divine Smite ne peut plus crit, ce qui fait du bien pour les DM.
Ouais, parce que on s'entend. Là,
j'ai déjà vu 120 dégâts sur un Divine Smite niveau 2. Là, j'ai fait comme... Ah! Mm. Oui!
Mm-hmm.
Mais oui, non. Donc, c'est un rebalancement du paladin, je dirais.
Okay. Mm-hmm. Ben, quand même positif, là, comme changement.
Oui. Ben c'est toujours quand même positif. Mais tu sais, là, il faut surtout prendre en considération que je vois le paladin d'un point de vue maître du jeu plus que joueur, parce que j'ai jamais joué paladin. Puis j'ai joué avec des paladins, puis c'est comme, oh non, le maître du jeu va être content des changements. Ça se peut que le paladin chigne un peu.
On peut lui dire, hey, buddy, t'es trop fort, là.
Oui, je suis d'accord. Là, comme, oui, ça se parle. C'est comme, je me rappelle, par exemple, pour le moine, c'est qui est un net avantage. Je me rappelle qu'un de mes amis a déjà joué moine dans une de mes parties. J'ai fait en sorte de rendre le moine plus fort quand même. Là, pour,
ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai donné des objets magiques boostés. Sinon, ça n'avait pas de bon sens. Là. Il était fort les bas niveaux, là, mais rendu niveau 10, je vois bien qu'il ne suivait plus le groupe. Là, fait que...
Ah, c'est ça. Les autres ont trop de trucs niveau 10. Mais là, ça semble avoir été réglé. Il faudrait le tester en partie, en fait, pour voir.
On arrive à ce moment de l'émission où on doit vous dire à la semaine prochaine.
Yep.
Déjà.
Merci les boys.
Mm-hmm. Ça fait plaisir.
Super émission, comme d'habitude. Et bien, nous autres, on va aller revaquer à nos occupations.
Vous
souhaitez une bonne semaine, un bon mois de décembre qui commence dans vraiment pas long. Puis on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.
Salut.
Ciao.